IO à la fin, et Deloubier, rapport de juillet 2012. Je connais Deloubier, Caraglio, je ne la connais pas directement, mais Deloubier est un inspecteur général tout à fait intéressant. Vous savez, les inspecteurs généraux dans le système de l'enseignement, ce sont des personnalités très particulières, c'est-à-dire qu'ils ont une liberté de parole, une liberté d'opinion, évidemment, quand ils ne dérogent pas à la loi, évidemment. Ils sont souvent missionnés pour faire des rapports, faire des enquêtes de terrain, ce qui a été le cas dans ce rapport, hein, enquête de terrain sur un certain nombre de réalités scolaires dans le primaire et dans le secondaire. Donc, il y a souvent des choses très, très stimulantes, hein, qui sont publiées, hein, par les inspecteurs généraux. Et alors, j'avais noté hier, parce que j'ai relu hier, je l'avais lu le rapport, mais j'ai relu en pensant justement à l'intervention d'aujourd'hui. Et alors, j'avais noté les termes qu'ils utilisent à propos du collège. Ils mettent à propos du collège, le collège, les transformations les plus visibles. C'est-à-dire plus visible que dans l'enseignement primaire, ça je vais y revenir. Et ils ajoutaient augmentation spectaculaire, comme vous l'avez repéré à l'instant, augmentation qui passe du simple au double, en gros, en 4 ans, hein, ce qui est quand même fantastique, dans le nombre d'enfants repérés comme handicapés et présents dans le collège. Ils ajoutaient qu'au niveau du lycée, c'est une nouvelle priorité, mais c'est une progression encore timide, hein, par rapport au collège. Hein. Et il faisait aussi toute une série de précisions concernant les structures d'accueil, hein, classe ordinaire, SECPA, ULIS en particulier. Et ils ajoutaient, parce que ça, je crois qu'on pourrait y revenir, parce que ça me paraît un point important qui va au-delà de la pure et simple description, hein, du rapport, mais où l'on voit un certain nombre d'engagements, hein, des deux auteurs, et des engagements tout à fait intéressants qui vont, je crois, dans un sens tout à fait stimulant du point de vue aussi des pratiques. Ils ajoutaient que c'est le problème des besoins, hein, qui est soulevé, beaucoup plus que le problème du handicap. Hein, hein. Les besoins éducatifs plus que le problème du repérage catégoriel des handicaps, hein. Et ils ajoutaient à ce moment-là que ça implique la formulation d'un projet personnalisé de scolarisation, hein. C'est une certaine logique, hein, entre besoin et projet personnalisé. Mais ils ajoutaient aussi que cela nécessiterait, je cite, la construction d'un parcours sur mesure conçu de manière modulaire et combinant des temps. Alors, la phrase est plus longue, hein. C'est-à-dire des temps en classe de référence, des temps éventuellement en groupe ULIS, des temps d'aide, etc. Donc, il me semblait que c'était vraiment très important ce passage, hein, quand ils disent parcours sur mesure conçu de manière modulaire. Hein. Donc, on voit bien qu'on se trouve dans toute autre chose que l'affectation dans une classe ou une structure, mais quelque chose qui tient compte, hein, des éventuelles évolutions, hein, des enfants ou adolescents concernés, et qui tient compte aussi de la nécessité, hein, d'aller d'un endroit à l'autre, c'est-à-dire non pas être fixé à un endroit, mais au contraire avoir la possibilité d'aller, par exemple, hein, soyons peut-être plus concrets, hein, d'une structure ULIS à une classe ordinaire à certains moments et en fonction, hein, des besoins, hein, des élèves, ce qui implique évidemment une manière de travailler des professionnels assez différente par rapport aux habitudes classiques, hein, c'est-à-dire nécessité de collaboration, avoir éventuellement des élèves qui ne sont pas là en permanence, mais des élèves qui viennent à certains moments. Donc, ça implique effectivement toute une série de pratiques fondamentalement renouvelées. Hein. Et donc ça, je crois que ça soulève effectivement beaucoup de problèmes d'organisation, bien entendu, mais aussi ça soulève beaucoup de problèmes de mentalité. Hein. C'est pas seulement l'organisation administrative, mais c'est aussi pouvoir bouger dans sa tête, hein, par rapport à des pratiques qu'il convient de renouveler. Hein. Voilà, donc voilà, j'ai un peu commenté, hein, le rapport, puisque je l'ai encore en tête, hein, pour l'avoir relu hier. Alors, Sur ces questions, hein, et sur ce qui avait été annoncé, moi j'avais l'intention de faire un rappel historique, parce que j'aime bien ça. Hein, je vous dis pourquoi, hein, j'aime ça. Et je pense, hein, que c'est assez éclairant. Un rappel historique, c'est-à-dire d'où venons-nous et pour le dire vite, où allons-nous? Où essayons? Où essayons nous d'aller. Hein, bon. Mais en tout cas, le rappel historique me semble là utile pour une raison principale, c'est que l'éducation spéciale, ce qui a été appelé l'éducation spéciale, alors le mot n'est plus utilisé aujourd'hui, n'est plus présent dans la loi de 2005, mais il a pesé, il pèse sans doute encore beaucoup. Hein, dans les institutions et dans les pratiques. Or, l'éducation spéciale a été une culture de l'enseignement primaire, hein, principalement. Ça n'a pas été une culture de l'enseignement secondaire, pas du tout, hein. Donc, il y a à la fois le poids du spécial, et qui joue encore, je pense, aujourd'hui un rôle, et le poids du primaire dans, je dirais, la manière de considérer des enfants en difficulté ou des enfants avec handicap. Hein. C'est une vieille histoire, ça vous la connaissez, hein, c'est une très vieille histoire dont on peut repérer quand même rapidement quelques dates. Hein. Mais pour les classes dites de perfectionnement, pour des enfants qu'on appelait arriérés, hein, c'est la loi de 1909. Hein. Loi de 1909, hein, pour laquelle les célèbres Binet et Simon, hein, avaient joué un rôle avec leur échelle métrique de l'intelligence. Hein. Alors, ce n'est pas eux qui ont fait la loi, bien entendu, ce sont les députés et les sénateurs, bien sûr, hein. Mais en même temps, tout ce qu'ils avaient proposé en préalable, hein, pour repérer, hein, les enfants dits arriérés, qu'ils appelaient aussi débiles, hein, mais ça jouait aussi sur les deux termes, il est sûr qu'ils ont joué là un rôle important, et on pourrait même ajouter un rôle important dans la séparation, hein. Dans la culture de la séparation. Hein. Je crois que de ce point de vue-là, Binet et Simon ont joué un rôle dans le sens, disons, de la ségrégation. Hein. On a tendance peut-être à l'oublier, mais je crois qu'il faut le rappeler. Ségrégation à deux niveaux, je crois. Hein. Ségrégation, c'est-à-dire qu'il y ait des classes de perfectionnement spécifiques, que ce soit séparé par rapport aux autres classes, hein, ça on l'a bien en tête, mais il y a un deuxième élément qu'on a tendance à oublier, c'est qu'ils ont aussi joué un rôle dans la séparation entre structures d'accueil scolaire et structures d'accueil hospitalière. Et ça, on a tendance à l'oublier. Or là-dessus, ils ont joué un rôle, alors je vais pousser, hein, dans la critique, ils ont joué un rôle néfaste, hein, très néfaste. Hein. Il suffit de relire leur livre de 1907, hein, Les enfants anormaux, hein, c'était le vocabulaire aussi de l'anormalité qui a été utilisé. Ils disent grosso modo, et je vais schématiser à peine, hein, ce qu'ils ont pu dire, hein, il y a des enfants, hein, qui sont en grande difficulté, qui ont des troubles parfois graves, ça c'est pour l'hôpital, on n'a pas à s'en occuper, hein, c'est pas notre affaire, hein. Ce qui nous intéresse, ce sont les enfants qu'on peut repérer dans l'école, hein. Or là-dessus, ils étaient en opposition par rapport à une autre personne, un médecin, hein, qui lui, au contraire, était un médecin, je dirais, intégratif, hein, qui était Bourneville. Hein, voilà, donc, si vous vous intéressez à ces questions historiques, vous avez au moins la référence de Bourneville, qui est décédé, je crois, juste avant la loi de 1909. Hein, je pense que c'est la loi qui l'a tué, finalement, peut-être. Ou alors 1907-1909, dans cette période, alors que lui avait proposé des classes annexées, hein, dans les écoles primaires pour des enfants d'hôpital. Hein. C'était quand même une idée absolument révolutionnaire. Alors peut-être pour avoir plus de places dans l'hôpital, bon, peut-être. Mais en tout cas, il y avait une certaine idée d'avoir des collaborations avec les écoles ordinaires pour des enfants venant des asiles. Or, Binet et Simon, il coupe complètement cette idée, hein, il l'argumente, hein, totalement, et l'argumente même du point de vue pédagogique en disant finalement, pour les enfants qui sont dans les asiles, on ne peut pas faire grand-chose du point de vue pédagogique, hein, faut pas se casser la tête, hein, c'est trop compliqué, c'est bon pour les médecins, La pédagogie, c'est pour l'école primaire, pour les anormaux qu'on repère dans les écoles. Bon, voilà. On pourrait donner des références sur ces travaux. Monique Vial, Jacqueline Gatteau, hein, qui ont travaillé sur cette période. Hein. Bon, mais ce que je veux ajouter néanmoins, hein, c'est que dans toute cette histoire de l'enseignement spécial, et particulièrement des classes de perfectionnement, il y a peu de développement, malgré la loi, jusqu'à la fin des années 50 et 60. Hein. Finalement, peu de création, très peu. Ça n'était pas obligatoire. Vous savez qu'une loi n'oblige pas toujours à créer une structure, hein, dans le cas précis. Il fallait respecter, hein, des dimensions de la loi si une classe de perfectionnement ou une structure départementale de perfectionnement était créée. Donc, obligation de respecter un certain nombre de normes. Mais en tout cas, pas obligation de créer. Du coup, ça a été peu créé. Hein. Alors, non, ils pouvaient être dans les classes, dans des classes ordinaires, ou parce qu'il pouvait y avoir des classes dans des milieux ruraux, par exemple, des classes uniques, où des enfants pouvaient être là, mais au fond de la classe, par exemple. Hein, donc, mais on a peu de données là-dessus. Hein, donc, ce serait intéressant de recreuser tout ça, d'y retravailler, parce que là-dessus, sur cette période, hein, que je suggérais là, entre 1909, hein, et les années 50, la fin des années 50, ce que certains ont appelé le grand sommeil, je pense que ça n'a pas forcément été du sommeil, c'est-à-dire qu'il se passait des choses. Hein. Et là-dessus, il faudrait sans doute retravailler, hein, voir ce qui se passait réellement, et quelles étaient peut-être sur des situations locales, hein, avec peut-être des monographies locales, historiques et monographiques, hein, voir comment les choses se passaient. Mais là-dessus, effectivement, il y a une lacune, hein, une lacune des travaux. Voilà, appel pour des travaux de master, de thèse, etc. Et des publications, je crois que ce serait vraiment très, très utile. Hein. Par contre, il y a des choses qui ont été faites, alors non pas du côté classe, mais du côté, par exemple, aide à l'enfance marginale et délinquante. Alors là, il y a eu des travaux qui ont été faits. Hein. Donc là, il y a une lacune plutôt du côté éducation, hein, ou éducation nationale, si l'on peut dire. Hein. Alors, fin des années 50, années 60, développement spectaculaire des classes de perfectionnement. Alors là, je n'ai pas apporté des chiffres, mais il y a un développement spectaculaire. La courbe passe, elle est à peu près plate en bas, comme ça, et puis ça bondit d'un seul coup. Tout cela est lié, hein, surtout au cours des années 60, à de nouvelles préoccupations qui sont liées à la prolongation de la scolarité. Hein, c'est l'ordonnance de 59, hein, du général de Gaulle sur la prolongation de la scolarité qui devra être effective dans les années 60, à la fin des années 60. Il y a donc cette préoccupation, et donc pour l'école primaire, de faire en sorte qu'il y ait des enfants, hein, dans ces bouleversements structurels, hein, du système d'éducation, hein, qui soient aussi, hein, des enfants qui soient préparés, éduqués, etc. Hein, même s'ils ne vont pas dans le secondaire. Il y a quand même cette idée, alors qui est ensuite théorisée, hein, d'une autre manière, c'est l'idée de l'enfance inadaptée. Hein. J'ai dit tout à l'heure que c'était la notion d'enfance anormale dans la période de Binet et Simon. Là, c'est au nom d'une politique de l'enfance inadaptée, hein, qui se développe alors explicitement, hein, dans les années 60. Au nom de l'enfance inadaptée, eh bien, on développe, hein, un certain nombre de structures du type classe, pas seulement d'ailleurs les classes de perfectionnement. Il y a des formations spécialisées qui se développent, hein, de manière spectaculaire dans les années 63-64, hein, des formations d'enseignants, mais des formations aussi de rééducateurs. Hein, donc c'est là qu'il y a, ce qu'on pourrait théoriser d'une autre manière, une division du travail éducatif s'accélère fortement. Hein, division du travail éducatif et aussi les psychologues, bien entendu. Hein, et donc, vous voyez, toute une nébuleuse, hein, de formation du secteur éducatif, mais qui n'est pas pour le professeur dans sa classe. Et c'est là qu'il y a vraiment un développement tout à fait important.
Est-ce que vous interrompez cette notion de perfectionnement, oui. Que j'ai Oui. Au niveau enfants dans ces classes-là, selon mon souvenir, oui, c'était plus des enfants qui avaient des difficultés scolaires,
ah oui, alors voilà,
dans ma génération, que des enfants qui étaient,
oui,
en,
oui,
situation de, d'handicap,
oui,
aussi,
oui,
bien cognitif que psychomoteur. Hein.
Oui, oui.
Voilà,
oui, oui, tout à fait, vous avez raison.
L'objectif étant quelque peu l'atteinte du certificat d'études primaires.
Oui, 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 tout à fait, oui, oui. Oui, oui, alors ce qui s'est passé aussi, c'est que officiellement, hein, dans ces années 60, officiellement, c'était des classes pour déficients intellectuels légers. Officiellement, c'était le cas. En réalité, du fait, hein, des mécanismes de rejet hors du système ordinaire, beaucoup d'enfants qui étaient en difficulté étaient menés, hein, étaient affectés, hein, dans les classes de perfectionnement, parce que d'une certaine manière, c'était des enfants qui gênaient ailleurs. Donc ils étaient mis, effectivement, vous avez raison, en classe de perfectionnement, si bien que le label déficient intellectuel léger était complètement fourvoyé, hein, puisque finalement c'était des enfants en difficulté ou des enfants gêneurs qui s'y trouvaient, et des enfants issus de l'immigration. Hein.
Aussi, perfectionnement, après vous aviez les sixièmes de transition.
Oui, tout à fait. Oui, 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 tout à fait.
Pas pour tous, oui.
Non, mais pas pour tous, oui, oui, c'est ça. Oui,
qui étaient encore un peu jeunes.
Oui, oui, tout à fait. Oui, oui. Donc il y a eu là toute une discussion très forte, hein, au niveau de la pertinence de ces classes à la fin des années 60, vous voyez bien, mise en cause du système éducation, mise en cause de l'hôpital, enfin toute cette période de critique institutionnelle, hein, des années 68, 69 et jusqu'au début des années 70, et donc toutes ces critiques qui ont touché, hein, ces affectations, hein, souvent très contestables, d'enfants dans des classes dites de perfectionnement et officiellement qui étaient pour déficients intellectuels légers alors qu'ils ne l'étaient pas, hein, c'était des enfants avec difficulté, hein. Donc vous voyez, c'est une période à la fois, c'est une période très très très, comment dire, ambiguë ou contradictoire, parce que c'est à la fois l'augmentation des structures, l'augmentation des affectations et en même temps, hein, des éléments critiques qui s'accélèrent, hein, que vous connaissez, hein, je l'ai dit, hein, critique de l'asile, critique de l'école, l'école caserne, voilà, le mot école caserne, c'est à ce moment-là que ça se développe, donc on peut contester le vocabulaire, mais en tout cas c'est très significatif aussi, hein, d'un mouvement critique, hein, et puis j'ai oublié, mais il ne faut pas l'oublier, que c'est dans cette période aussi des années 60 que se développe par des associations, et par des associations de parents, mais pas seulement des associations de parents, des structures complètement à l'écart du système éducatif ordinaire. Hein. C'est les années 60, là, qui sont les années, hein, de développement d'instituts médico-éducatifs. Hein. Alors, dans l'argumentation d'un certain nombre de parents, hein, de cette époque, hein, on peut penser... une association comme les Papillons Blancs, hein, ensuite fédérée par l'UNAPI, l'UNAPI qui existe toujours, hein. L'argumentation, c'était de dire, nous ne voulons pas que nos enfants, des enfants en difficulté bien sûr, hein, aillent en hôpital, or le système éducatif ne les accueille pas non plus. Hein. Et donc, créons des établissements. Créant des établissements qui vont être à cheval sur le médical et l'éducatif, là au moins il y aura un lieu d'accueil et ces enfants ne seront ni à l'hôpital, ni rejetés par le système éducatif ordinaire. Donc c'est important, je pense, à rappeler, parce qu'on se trouve maintenant, aujourd'hui, hein, je vais revenir sur l'aspect historique, mais on se trouve aujourd'hui, hein, face à des situations... très particulière par rapport à des pays étrangers. Hein. Si les amis italiens étaient là, ils diraient, mais vous continuez à être complètement fous avec ce système. Aujourd'hui, il y a toujours, hein, des instituts médico-éducatifs et des institutions particulières gérées par des associations, hein, pour lesquelles, néanmoins, les parents, donc certains parents en tout cas sont très satisfaits de ces structures, y tiennent, et aussi des structures pour lesquelles il y a gratuité. Ce qui étonne évidemment certains collègues à l'étranger qui disent, bah oui, mais si c'est privé associatif, les parents doivent payer. Non, hein, puisqu'il y a des prises en charge officielles, hein, du point de vue des fonds publics. Donc C'est quand même des situations très particulières qui, en tout cas, sont susceptibles de bouger, qui ne bougent pas suffisamment encore, hein, mais qui donnent un paysage quand même très particulier au problème des enfants en situation de handicap aujourd'hui en France. Hein. Donc, les structures éducatives ordinaires, mais à l'intérieur desquelles on peut trouver des dispositifs particuliers, on en a parlé tout à l'heure, mais aussi des dispositifs hors éducation, sauf que, dans un certain nombre de cas, il peut y avoir aussi des collaborations nouvelles qui s'instaurent entre une association locale et une scolarisation qui partiellement peut se faire dans une école ordinaire, ce qui implique des conventions entre l'association et le système éducatif. Mais c'est peut-être dans ce sens-là que les choses peuvent évoluer et justement faire bouger un petit peu des systèmes qui ont été figés hein, jusqu'à présent. Alors, donc, pour revenir à ces questions historiques dans les années 60, encore une fois, dans le second degré, il y a néanmoins eu un certain nombre de créations et d'évolutions hein, dont on est en partie tributaire. Hein. Dans cette idée de prolonger la scolarité des classes de perfectionnement vers le second degré, le moment important, ça a été en 1967, la création des sections d'enseignement spécialisées, les SES. Les SES, c'est 67, avec l'idée hein, de permettre une véritable formation professionnelle à des enfants devenus préadolescents ou adolescents. Donc, ce moment-là aussi, je crois, est important, avec bon, les idées de cette période, hein, une formation professionnelle qui ne serait pas une véritable formation professionnelle, après tout, mais une formation un peu par imitation, une formation par habitude du geste, hein, mais non pas une formation professionnelle qui soit étayée par les formations professionnelles des autres, hein, c'est-à-dire avec une perspective qui pourrait être une perspective de CAP. Hein, c'était plutôt, voilà, j'ai caricaturé, mais un petit peu du bricolage, hein, du bricolage pour qu'ensuite ils aient des petits boulots. Mais il n'y avait pas de perspective ambitieuse hein, de formation professionnelle dans cette période des SES 1967. Hein. Les choses ont évolué, hein. Les choses ont évolué. 1996, ce sont les SECPA. Hein. Vous avez vu le cycle tout à l'heure, je le décline à nouveau. Hein, les sections d'enseignement général et professionnel adapté. Hein, donc 1996. Et puis, renouvellement aussi des perspectives en 2006. Alors, avec justement ce que je viens de dire, des perspectives plus ambitieuses. Hein, c'est-à-dire avec l'idée qu'il ne faut pas avoir des formations diminuées. Hein, parce que des adolescents se trouvent en difficulté, mais néanmoins avoir la perspective que, après tout, un certain nombre d'entre eux peuvent accéder à un CAP, hein, ou tout au moins avoir des formations qui soient héritées d'une perspective de CAP, hein, même si certains d'entre eux n'y accèdent pas, en tout cas qui est un arrière-plan de référence. Hein. C'est un peu l'idée aussi du socle commun, hein, qui est un socle commun de formation professionnelle, mais qui soit aussi valable pour ceux qui sont en difficulté. Donc là, renouvellement en tout cas profond de ces perspectives. Et puis je reviens un petit peu en arrière hein, sur les années 60-70. Une chose qui est complètement oubliée maintenant, mais je trouve que c'est dommage, il y a eu des classes d'adaptation dans le second degré. Qui s'appelait comme telle, hein, classe d'adaptation dans le second degré. Ben, c'était la période des années 60-70. Hein. Classe d'adaptation dans le second degré, c'est-à-dire des classes qui étaient prévues comme appui à la scolarisation pour des adolescents ou préadolescents qui étaient suivis dans des centres médico-psychopédagogiques. Hein. Donc une sorte de partenariat hein, entre des centres médico-psychopédagogiques pour des enfants, pour des adolescents avec difficultés, disons, d'ordre psychique, pour le dire rapidement, avec des troubles psychiques, hein, mais pouvant être scolarisés hein, dans des classes particulières, dites classes d'adaptation. Hein. Bon, il faudrait reprendre les auteurs de cette époque. Hein. Il y avait par exemple un auteur qui a écrit là-dessus et qui était justement dans une classe, hein, de ce type, qui était Roger Bley, B-L-E-Y. Hein. Donc, quelque chose de tout à fait original qui n'a pas duré, parce que ça n'a pas été soutenu par les pouvoirs publics, ça aurait pu être soutenu. Hein. Si un directeur de l'enseignement avait été intéressé par justement cette possibilité d'évolution de partenariat entre centres spécialisés et classes, hein, ça aurait pu marcher, ça aurait pu se développer. Ça ne s'est pas développé, hein. Pas du tout, du tout. Ça a été complètement négligé. Mais je pense que cette expérience était tout à fait intéressante et ça avait été mis en place dans plusieurs endroits, pas seulement à Paris, c'était en liaison avec le lycée Claude Bernard, mais ça avait été mis en place aussi à Strasbourg. Je crois que Maurice Debesse aussi avait été un de ceux qui avait poussé hein, dans ce sens-là. Hein. Vous voyez, quelque chose qui aurait pu se développer, qui ne s'est pas développé, peut-être parce que, justement, ça mettait en cause une collaboration, plutôt ça mettait en place, hein, une collaboration entre une structure de type médico-psychopédagogique extérieure à l'école et l'école. Alors peut-être que les esprits n'étaient pas suffisamment mûrs hein, pour envisager une telle collaboration, un tel partenariat dans cette période. Plutôt avec l'idée, il faut des structures scolaires, là on sait ce que c'est, mais si on envisage du partenariat, alors là, que voulez-vous, c'est trop compliqué, on ne le fait pas. Hein. Il est fort possible que des administrateurs de l'éducation aient dit non, non, ça, ce n'est pas notre affaire, on ne développe pas ce type de structure. Hein. Alors, repère rapide ensuite de quelques dates, hein, et ensuite on va peut-être aller jusqu'à certaines notions. Les classes spéciales, dont les classes de perfectionnement, sont ensuite rebaptisées CLIS, classe d'intégration scolaire, c'est 1991. Hein. Donc on passe de l'idée de classe spéciale à l'idée de classe d'intégration scolaire, avec évidemment l'idée de l'intégration hein, qui devient là tout à fait dominante. Dans cette période où presque aussitôt après, hein, les unités pédagogiques d'intégration pour le second degré, c'est 1995, hein, donc UPI 95, et puis les UPI, unités pédagogiques d'intégration, deviennent unités localisées pour l'inclusion scolaire, c'est 2010, c'est beaucoup plus récent. Hein. Donc vous voyez toute une série de, hein, d'évolutions hein, de ce type-là, qui sont à la fois des évolutions, je crois, disons, de perspectives structurelles, puisqu'on envisage là explicitement le second degré, hein, mais en même temps des perspectives qui se modifient du point de vue même des orientations. Hein. Donc on va peut-être y revenir, hein, je vais y revenir maintenant pour développer ce point. On passe en particulier hein, de l'intégration à l'inclusion, comme on était passé du spécial à l'intégration. Hein, si on schématise vraiment très très vite hein, les grandes périodes historiques, on passe du spécial à l'intégration et de l'intégration à l'inclusion. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ?
D'un point de vue historique, comment vous expliquez l'explosion des effectifs en 4 ans ? C'est une dégénérescence de la population scolaire française.
Ah là,
c'est la fermeture d'instituts médicaux qui existaient avant, ou une meilleure détection de handicap de l'enfant ?
Alors, c'est difficile d'y répondre. Il faudrait hein, vraiment reprendre les dossiers en main, et en particulier faire très attention aux données statistiques qui ne sont pas bonnes. En tout cas, je ne veux pas critiquer le rapport de lobby, ils sont tributaires hein, des données statistiques qui ont été diffusées. De manière générale, les données statistiques dont on dispose ne sont pas satisfaisantes au niveau français pour ces questions-là. En particulier, hein, vous avez raison de soulever cette question, d'où vient hein, une telle explosion ? Les effectifs des instituts particuliers ont tendance à diminuer, ça c'est vrai, mais ça n'est pas parce que des effectifs auraient été transférés en quelque sorte des instituts spécialisés vers l'enseignement ordinaire. Ça n'est sans doute pas ça hein, qui joue un rôle. Il y a des reconnaissances nouvelles hein, de types de difficultés. Ça, je pense que ça joue un rôle. Il faudrait l'analyser vraiment très finement. Je prends un exemple, hein, mais il me semble tout à fait significatif au cours de ces dernières années, c'est la reconnaissance des difficultés d'apprentissage reconnues comme dysfonctionnements, hein, avec D-Y-S, alors dys orthographie, dys calculi, dys, etc., dyslexie bien entendu. Ça c'est une montée en force très importante, et... à la fois du point de vue des possibilités, je dirais, de repérage et de diagnostic, et aussi sous la pression de groupes, et de groupes qui se mobilisent, qui sont des militants par rapport à ça. Vous voyez, je le vois aussi d'un point de vue sociologique. Hein, ça ne naît pas comme ça, comme si bon, des psychologues ou des médecins diraient « Ah ben oui, il faut creuser là-dessus ». Non, il y a aussi des pressions, hein, qui jouent fortement dans ce sens-là, comme... joue aujourd'hui fortement des pressions associatives concernant la reconnaissance de l'autisme. Hein. Parce que alors là, c'est encore plus fantastique que pour les 10. Hein. Si on voit des données statistiques, hein, il y a peut-être 20 ans, on repérait un tout petit nombre, enfin relatif, hein, d'enfants ou d'adolescents autistes. Maintenant, c'est l'explosion totale. Alors, vous allez dire, est-ce qu'il y a finalement une épidémie de l'autisme aujourd'hui? Non, hein. Bien entendu, non. Hein, il y a des repérages différents, mais qui sont en même temps portés, hein, portés par des groupes associatifs, par des parents qui disent, voilà, il faut prendre ça en considération. Donc, tout cela joue un rôle, hein, bien entendu, tout cela joue un rôle. Et je crois que le secteur éducatif ne peut pas être à l'écart, hein, effectivement, de ce renouvellement, hein, de repérage, de cette manière de considérer autrement, hein, les difficultés. Et bien entendu... si on va encore plus loin, et de manière peut-être plus positive, là-dessus j'ai été fortement en critique, hein, mais si on voit les choses de manière plus positive, il y a effectivement une attention nouvelle aux besoins éducatifs particuliers, hein, au cours de ces dernières années, justement. Hein. Et ça, je pense que ça a joué un rôle. En même temps, ça pose un autre problème, ou parallèlement, hein, ça pose l'autre problème, c'est-à-dire non plus le type de diagnostic médical catégoriel, mais le problème du repérage des besoins éducatifs particuliers, hein, qui n'est plus sur le même registre que le repérage des catégories d'enfants ou des catégories de pathologies. Hein, c'est plutôt le repérage des difficultés, hein, objectivement repérables, mais des difficultés qui portent plus sur la question des apprentissages, sur la question du lien social, sur la question du comportement, hein, bien entendu, beaucoup plus que sur le diagnostic étroit. Alors ça, je pense que ça a joué, hein, au cours de ces dernières années, et ça va continuer à jouer un rôle. Hein.
Ce qu'on peut dire aussi, Eric, c'est qu'il y avait quand même aussi de nombreux enfants qui n'avaient aucune scolarisation.
Oui, alors oui.
Absolument. Et donc oui, là, oui, on a rattrapé un certain retard de ces enfants.
J'allais dire, on est en train de faire tout un pataquès sur l'inclusion, alors qu'elle existait déjà. Si ces enfants n'étaient pas forcément repérés, si les groupes de pression n'avaient pas fait identifier une forme de handicap, l'inclusion, elle existait de fait. Les dyslexiques ont traversé le système scolaire.
Oui, elle pouvait exister de fait.
Difficilement, très très difficilement, et jusqu'à certains niveaux.
Parce que je veux dire, l'inclusion, elle existait de fait.
Oui, oui, oui.
Les élèves étaient là, c'est ça que vous vouliez dire.
Oui, les élèves étaient là quelque part.
Pas tous, donc il y en avait beaucoup qui n'étaient pas scolarisés.
Ils étaient là quelque part, oui, oui. Oui, oui, je comprends.
S'ils étaient ailleurs, s'ils n'étaient pas là,
alors, ça pose la question de la pertinence de la notion d'inclusion, bien sûr, ça on peut y revenir, mais pour être plus précis sur la question que vous avez soulevée, c'est vrai qu'il y a encore, peut-être même pas une dizaine d'années, hein, il y avait un certain nombre de groupes et de groupes associatifs qui avaient, à partir d'un décryptage des données et puis d'enquêtes de terrain, avaient montré qu'il y avait entre 15 000 et 20 000 enfants, hein, qui étaient sans scolarisation, 15 000 à 20 000. Et vous savez aussi que par rapport à ces questions, un certain nombre d'enfants, plutôt des enfants avec difficultés psychiques graves et syndrome autistique, il y a un certain nombre d'enfants qui vont en Belgique. Ils ne sont pas scolarisés en France. Ils sont scolarisés en Belgique francophone. Hein. Alors on se dit, voilà, il y a aussi un délestage ailleurs. Bon.
Mais si je me trompe, en Belgique, c'est une séparation, c'est des instituts.
En général, oui.
Oui.
Voilà, donc vous critiquez, vous critiquez d'un côté une culture de la séparation, oui. Et d'un autre côté, vous dites que c'est mieux en Belgique.
Ah non, je n'ai pas dit ça. Non, je n'ai pas dit que c'était mieux en Belgique. J'ai dit le fait est qu'il y a un certain nombre d'enfants en Belgique. Et peut-être qu'en effet, plutôt que d'être nulle part ou restant chez les parents en France, peut-être qu'effectivement, là, se passent des choses qui sont pas mauvaises. Enfin, il y a des institutions que l'on connaît qui sont, en tout cas, des institutions assez satisfaisantes. Ça pose, vous avez raison, le problème du point de vue que l'on peut avoir sur la séparation et l'inclusion, bien entendu. L'inclusion est un peu un mot valise quand même. Hein. C'est un mot valise, hein. C'est une terminologie valise. Moi, je la reprends, hein. je la défends, mais en même temps, c'est quand même une notion assez ambiguë. Hein. Elle est interprétée de manière très différente, en tout cas à l'étranger, hein, ou des pays... des collègues utilisent aussi la notion d'inclusion, ils peuvent l'utiliser dans des termes très différents, hein, par rapport à ce que l'on envisage ici, hein. Par exemple, moi, j'avais repéré il y a quelque temps un document qui venait de Belgique, justement de Gand, hein, très exactement, hein. Je ne l'ai pas apporté le document, mais c'est un document assez étonnant où ils définissent l'inclusion comme la possibilité pour les parents de choisir le mode de scolarisation qu'ils souhaitent. Et donc, dans cette perspective dite d'inclusion, les parents peuvent choisir une structure spécialisée. C'est quand même étonnant. Hein. Donc, vous voyez, le terme est tellement difficile pour un certain nombre, hein, à saisir que parfois, il est utilisé de manière radicalement différente. Néanmoins, alors, je vais être là plus positif, hein, cette fois-ci, et dire un petit peu mieux, hein, ce que je définis, hein, par intégration-inclusion. L'intégration telle qu'elle avait été pratiquée, hein. Elle avait été pratiquée vis-à-vis d'enfants considérés comme pouvant être intégrés. Et les décisions qui étaient prises, hein, par les commissions, hein, qui existaient dans cette période, à partir de la loi de 1975, hein, c'était qu'il fallait néanmoins que les enfants soient intégrables. Hein. Et un certain nombre d'enfants étaient considérés comme n'étant pas intégrables dans le milieu scolaire ordinaire. Je ne parle même pas des classes ordinaires. Dans le milieu scolaire ordinaire, des enfants étaient considérés comme pas intégrables. Donc, il fallait trouver d'autres solutions. Ce qui voulait dire, hein, en d'autres termes, qu'il fallait que l'enfant soit adaptable. Autrement dit, c'était l'idée que pour qu'il y ait intégration dans le milieu scolaire ordinaire, il faut que l'enfant ait des capacités d'adaptation suffisantes, hein, pour le milieu scolaire ordinaire. À partir des années 2000, et pas seulement la loi de 2005, hein, mais à partir des années 2000, une autre orientation est venue vraiment sur le dessus du panier, c'est l'orientation en termes de droit. Alors, pas seulement pour les enfants, hein, mais aussi pour les personnes adultes en situation de handicap. Hein. Le droit à une vie qui soit la plus ordinaire possible pour tous. Hein. Alors, on voit bien que par rapport aux questions de la scolarité, à partir du début, hein, des années 2000, hein, cette question du droit à la scolarité pour tous, hein, est devenue de plus en plus forte, est devenue revendiquée par les parents, bien entendu, mais aussi a été tout à fait formulée par les pouvoirs publics. Hein. Il y a eu des textes, des circulaires officiels, hein, de cette période-là qui disaient très clairement le droit à la scolarisation et l'accueil est un devoir. Hein, c'était une circulaire de Ségolène Royal, exactement.
1999.
Oui, c'est ça. Donc, quelque chose a bougé avant 2005. Alors, parfois, hein, certains disent 2005, c'est la grande révolution, il n'y avait rien avant. Non, évidemment, une loi, c'est jamais comme ça. Il y a toujours des évolutions plus lentes et une loi, à un moment donné, donne quelque chose qui sanctionne plus fortement des évolutions. C'est le cas, effectivement, par la loi de 2005, qui ne parle pas d'inclusion, d'ailleurs, hein, faut le rappeler, qui ne parle pas d'inclusion, qui ne parle pas de besoins éducatifs particuliers, hein. Donc, vous voyez, il y a une sorte là d'ambiguïté dans notre cadre législatif. Et c'est plutôt après, hein, qu'il y a là aussi, hein, des évolutions dans les mentalités, dans les manières de voir, où on parle effectivement d'inclusion pour l'inclusion. Hein, les CLIS, c'est pour l'inclusion maintenant. Les ULIS, c'est pour l'inclusion. C'est pas d'inclusion, c'est pour l'inclusion. Autrement dit, une étape ou un processus vers l'inclusion et la notion de besoin éducatif apparaît dans un certain nombre de textes officiels maintenant. J'ajoute, ensuite je vous donne la parole, que, de manière alors, tout à fait récente, dans la loi pour la refondation de l'école, l'article 1 mentionne éducation inclusive. Mais ça n'a pas été donné d'un coup. Hein, les pouvoirs publics et le ministère de l'Éducation n'avaient pas à l'origine un article 1 avec la mention d'éducation inclusive. Et c'est sous la pression d'associations et de groupes militants que cela a été introduit très récemment. Donc, il y a là aussi quelque chose qui a bougé hein, dans ce sens-là. Et dans le sens, alors que je précise à nouveau, hein, inclusion ou éducation inclusive, dans le sens que c'est plutôt aux structures existantes hein, d'avoir des capacités d'adaptation telles que la diversité des enfants peut être accueillie. Alors c'est ça, effectivement, ce basculement hein, très important. Hein, c'est le fait que, malgré les ambiguïtés de la notion d'inclusion, et que moi je partage, hein, et que souvent je critique, il y a quand même ce basculement de l'idée que les capacités d'adaptation, c'est pas l'enfant qui doit s'adapter à tout prix, mais ce sont les structures et les dispositifs qui doivent avoir des capacités d'adaptation à la diversité des besoins particuliers hein, des enfants. Et c'est là qu'il y a le basculement. Vous avez souhaité la parole.
Je pense qu'il faut aussi remettre en contexte, parce que ça permet aussi d'élargir le débat, sur le fait qu'au niveau parental,
oui.
Le temps volontairement consacré aux enfants a beaucoup changé. Alors, je ne voudrais pas être anti-féministe sur le fait que la femme va travailler, n'est plus là, donc elle n'a plus non plus le temps pour ses enfants par rapport à... Il y a aussi des hommes qui le faisaient, mais beaucoup moins quand même, statistiquement. Et ce qui laisse aussi un champ d'ouverture sur un essai de compréhension de difficultés d'enfants qui, eux, seraient, entre guillemets, ordinaires et n'auraient pas à être inclus ou intégrés, vous voyez. Parce que vous parliez de temporalité, de temps, de modalité.
Oui, oui. C'est le rapport de Loubier, oui.
Voilà, et bien,
oui.
La présentiel aussi, parce que moi je travaille beaucoup avec des enfants qui ont différents types de handicap, je ne vais pas dire un rejet, mais une volonté d'avoir un temps pour soi de la personne qui s'occupe à temps des enfants qui ont des difficultés, qu'elles soient plus ou moins profondes. Et cette volonté pour augmenter les effectifs peut aussi s'expliquer sur le fait que, au niveau de la famille, il n'y a plus les personnes qui sont là ou qui désirent l'être. C'est
oui, moi je n'irai pas jusqu'au bout de votre. Enfin, je ne partagerai pas totalement votre argumentation parce que s'il est vrai qu'un certain nombre d'enfants peuvent se trouver aujourd'hui en difficulté par rapport justement à des organisations familiales ou parentales et que des parents effectivement aient des difficultés à assumer hein, leur position de parent, ce qui est évidemment malheureusement vrai hein. Par rapport au travail féminin, les femmes travaillent depuis le début du siècle hein. Les familles ouvrières c'était le travail des femmes hein, donc c'est pas radicalement nouveau.
Alors, elles travaillent hein. Différemment.
Ah oui, sans doute différemment, mais
parce que le cadre sup, elles sont quand même plus là et elles passent encore le balai.
Oui, c'est ça, dans le cas des cadres sup.
Mais la femme du ménage n'est pas payée.
Oui, mais le travail féminin, bon, hein, je citais le début du siècle avec les familles ouvrières, mais le travail féminin qui a atteint des couches sociales qui auparavant hein, n'étaient pas autant concernées par le travail féminin, là aussi c'est les années 60. Hein. Femmes, cadre moyen, femmes employées. Le grand boom, c'est les années 60 aussi. Donc c'est pas aujourd'hui. Donc, c'est pas le travail féminin en tant que tel. Hein, c'est plutôt l'organisation familiale hein, qui a bougé, qui se passe différemment, qui se heurte à des problèmes différents, qui se heurte aussi à une certaine individualisation hein, des enfants et des adultes. Ça, alors là, je pense que c'est une tendance forte, ça, dans le monde contemporain. Individualisation, souci d'avoir une vie à soi, hein, et ça touche évidemment toutes les personnes de la famille. Alors ça, c'est effectivement nouveau. Ça peut aboutir effectivement à des cadres familiaux qui sont séparés individu par individu. L'adolescent qui veut hein, absolument... son lieu à lui-même, son lieu réservé, etc. Donc ça, effectivement, et les adultes aussi. Et ça, je crois que ça fait partie des évolutions contemporaines fortes, hein, ça, aucun doute. Hein. Alors, encore 10 minutes. Bon, alors, on a déjà engagé la discussion. Je pensais ajouter peut-être un ou deux éléments concernant ces questions de spécificité du second degré, peut-être pour amorcer les travaux que vous allez avoir à faire ensemble. Les spécificités du second degré. Alors, j'ai indiqué tout à l'heure que, effectivement, dans le second degré, sauf exception, sauf des dispositifs particuliers, il n'y avait pas une culture d'accueil d'enfants en situation de handicap comme il y a eu dans le premier degré. Ça, c'est clair. Hein. Sauf effectivement, je l'ai dit, SES, SECPA, mais finalement, SES, SECPA, vous savez, pour avoir vu des réalités, c'était plutôt des lieux séparés. Ce n'était pas véritablement des collaborations avec le collège et avec les autres collègues du collège, sauf dans des années plus récentes. Donc, des structures, effectivement, relativement séparées. Et paradoxalement, là aussi, des structures dirigées par des personnes issues du premier degré. Hein, grand paradoxe. Dans le second degré, mais pas des personnels du second degré. Hein. Et par exemple, des directeurs issus de formations primaires. Hein. Bon, donc ça, c'est quand même une spécificité, un paradoxe. Hein. Mais pour les autres classes, sauf ce qui n'a pas été étendu, les classes d'adaptation du second degré dont j'ai parlé tout à l'heure, il n'y avait pas là du tout, d'une certaine idée de l'accueil d'enfants en situation de handicap dans le second degré. Hein. D'enfants reconnus, en tout cas, en situation de handicap. Hein. Parce que, bien entendu, il y a toujours eu des enfants ou des adolescents avec des difficultés d'apprentissage ou de compréhension, bien sûr. Hein. Mais l'idée de la reconnaissance d'enfants en situation de handicap dans le second degré, c'est une nouveauté. Alors, certains disent, cette naïveté du second degré, mis entre guillemets, ça peut être un bénéfice. C'est-à-dire, finalement, ça démarre à partir de quelque chose qui est neuf ou vraiment très neuf. Et donc, il faut monter quelque chose là de l'ordre de l'ordre des mentalités, de l'ordre des pratiques, à partir de choses qui finalement n'existaient pas. Hein. Donc, ça peut être un avantage. Hein. Néanmoins, des problèmes multiples se posent. Hein. Je les ai notés rapidement, mais vous avez sans doute d'autres idées. Les problèmes de coordination entre les profs issus du primaire et les profs du secondaire. Le cas que j'indiquais ici pour les SECPA, c'est aussi le cas pour UPI et ULIS, justement des responsables d'ULIS issus du premier degré et non pas issus du second degré, ce qui est quand même là aussi un paradoxe. C'est dans le second degré, mais ce ne sont pas des personnels du second degré. Ça, je pense que c'est déjà un premier niveau de réflexion que peut avoir. Et puis, deuxième niveau de problème de coordination entre des profs différents, c'est évidemment, dans le second degré, des disciplines différentes. Hein. Donc, il y a une autre culture. Hein. C'est la culture des disciplines, des cultures de formation disciplinaire séparées, ce qui n'est évidemment pas la culture du premier degré. Donc, ce deuxième niveau de difficulté se pose, mais ça pose la même problématique, c'est-à-dire la problématique de la coordination, la problématique du travail cohérent entre collègues qui sont issus de formations différentes, la coordination entre les collègues qui sont issus du primaire et du secondaire. Donc, il y a toute une série de questions que l'on pourrait rapidement résumer sous le terme, effectivement, de collaboration indispensable pour avancer, comme le disait Véronique Poutou tout à l'heure, à savoir, devant des situations qui peuvent être difficiles, on ne résout pas ces situations tout seul. Autrement dit, ça implique, mais ça implique aussi, ça a pu impliquer aussi cette révolution de mentalité dans le premier degré aussi, c'est-à-dire, c'est pas le prof tout seul qui peut résoudre un certain nombre de situations difficiles. Hein. Ça implique une implication de l'établissement. Hein, et donc là, ça pose le problème des cadres, le problème du projet d'établissement. Hein. Cette question se pose aussi complètement dans le secteur public. Hein. La formation des personnels de direction reste, à mon avis, très déficitaire par rapport à ça, hein, très déficitaire par rapport à, aux questions que nous évoquons. Hein. Ça pose le problème au sein d'un établissement de la coordination des actions, mais il faut un pilote néanmoins, et je crois que le chef d'établissement doit être le pilote hein, de ces orientations, doit être convaincu qu'il y a quelque chose à jouer de fondamental hein, pour l'accueil d'enfants dans la diversité. Ça, je crois que c'est tout à fait essentiel. Néanmoins, nouveauté législative, hein, réglementaire, c'est aussi la formation de personnel spécialisé du second degré. Je ne l'ai pas évoqué hein, jusqu'à présent. Ça, c'est une nouveauté hein, qui n'existait pas auparavant, puisque toutes les formations spécialisées auparavant étaient des formations pour le second degré, pour des personnels issus du second degré. Donc, du premier, je dis l'inverse, du premier degré. Et donc, le fait que, effectivement, on aille vers autre chose hein, pour des formations des personnels du second degré, on renoue avec les perspectives des années 60 qui n'ont pas eu le lendemain. Hein. Mais il a fallu longtemps pour que ça aille jusque-là et qu'on puisse imaginer hein, qu'il y ait des formations spécialisées pour le premier degré, mais qu'il y en ait aussi pour le second degré. Alors, ceci étant dit, je ne veux pas dire que ce sont les formations spécialisées qui vont résoudre les questions, hein, parce qu'on pourrait là aller hein, vers une dérive, à mon avis, dangereuse, qu'on entend dire hein, par les personnels de l'éducation, mais je ne suis pas formé pour ça, donc je ne peux rien faire. Hein. Donc, vous voyez, donc je suis aussi très mesuré par rapport à ça. Hein, ce n'est pas les formations spécialisées qui, en tant que telles, vont donner le miracle hein, qui va permettre l'accueil généralisé. Donc, ça implique hein, effectivement une part de formation spécialisée. Alors, formation spécialisée, sans doute comme personnel ressource, plus, à mon avis, que comme personnel qui serait là pour s'occuper hein, particulièrement de tel ou tel enfant, encore que ça puisse se faire, bien sûr. Hein. Mais l'idée dominante, c'est quand même, à mon avis, que ce sont des personnels ressources, hein, que ces personnels spécialisés. Et ça implique aussi, pour l'ensemble des personnels, une sensibilisation hein, à l'égard, justement, de ces questions de la diversité. À l'intérieur de cette diversité, il y a des enfants reconnus comme des enfants handicapés. Parce que, de manière plus générale, on peut se poser la question aujourd'hui de la pertinence de demandes que l'on entend, y compris du côté d'organisations syndicales, par exemple, et il faut former à la connaissance des handicaps. Mais qu'est-ce que ça veut dire hein? Est-ce que ça veut dire qu'il va falloir connaître par le détail la mucoviscidose? Est-ce qu'il va falloir connaître par le détail les différentes formes d'infirmité motrice cérébrale? Mais c'est une quête infinie, hein, et à mon avis, qui n'est pas souhaitable. Hein, hein. Ce qui est souhaitable, en tout cas sur la base, c'est justement hein, une sensibilisation à l'égard des besoins particuliers, orientée vers effectivement l'idée de pratiques éducatives hein, qui soient suffisamment souples, ouvertes à ces diversités. Et à l'intérieur de cela, bien entendu, il peut y avoir la nécessité de mieux connaître effectivement certaines formes de pathologie parce que cet enfant est là, bien sûr. Hein. Mais le cadre général, ce n'est pas le cadre de la connaissance des différents types de pathologies, parce que si on fait ça, on va du côté du modèle médical. Hein. On est totalement du côté du modèle médical, avec le présupposé que si on connaît bien le diagnostic, on va faire de la bonne pratique. Non, ça je ne le crois pas du tout. Hein. Et au contraire, on a un tas d'exemples où c'est en ayant, je vais utiliser un vocabulaire qu'utilisent souvent les psychanalystes, hein, c'est quand on fait un pas de côté, hein, à côté de la pathologie, hein, qu'on, finalement, on a les actions les plus pertinentes à l'égard d'enfants ou d'adolescents qui ont des difficultés. Non pas en se centrant hein, sur la pathologie, mais en faisant, non pas comme si elle n'existait pas, mais en allant à côté avec des activités qui peuvent être des activités artistiques, des activités de différents types, des activités musicales, où on rejoint effectivement hein, un enfant qui lui-même a des difficultés très particulières. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça, je crois que du point de vue de l'action de manière générale, ou voire des activités, le mot activité est sans doute meilleur, hein, du point de vue des activités, hein, c'est bien l'idée d'avoir quelque chose qui permet une certaine inventivité plutôt que la centration hein, sur ce qu'il faut faire, la bonne pratique à l'égard de tel enfant. Alors, disant cela, vous voyez, que j'ai une position totalement différente par rapport à ce qui se dit aujourd'hui par certains à propos des enfants autistes. Hein. Parce qu'il y a ce débat fort, parfois violent. Hein. Moi, j'étais hier dans le conseil d'administration de l'association dans laquelle je m'occupe beaucoup de choses, l'association pour adultes et jeunes handicapés. À la fin de la séance, entre 5h et 5h30, il y a eu une polémique assez vive entre des orientations différentes concernant les enfants autistes. Pas forcément sur l'aspect éducatif, concernant les structures. Hein. Et vous avez bien vu quelle est plutôt ma position. Hein. C'est non pas défendre des pratiques éducatives normées au nom des bonnes pratiques, au nom de ce qu'il faut faire et pas autre chose hein, à l'égard de ces enfants, mais plutôt une position qui vise au lien social avec des enfants qui effectivement ont des difficultés de cet ordre-là, qui en même temps les mettent hein, dans des perspectives d'apprentissage, mais avec suffisamment hein, de souplesse et de flexibilité, plutôt que d'appliquer des méthodes rigides qui vont à l'encontre du lien social. Alors, je vais vous donner une référence d'article qui va paraître prochainement, qui n'est pas de moi, alors je le fais d'autant plus volontiers, dans la revue qui est de l'Institut National Supérieur Handicap et Enseignement Adapté, INSHEA. Voilà. Donc c'est le prochain numéro de la revue, je crois que c'est le numéro 61, il n'est pas sorti, il va être prêt je crois dans un mois. Le prochain numéro a un article justement sur les activités pédagogiques en classe et en classe ordinaire avec des enfants dont certains ont des syndromes autistiques. Hein. Alors le titre, je ne sais plus le titre, et l'auteur c'est Delphine Gedge, qui est une collègue de l'Université du Québec à Montréal, mais que l'on connaît.
Gedge.
G-U-E-D-J. Voilà, Delphine Gedge. Hein? Alors, elle donne un titre plus beau. Hein? Je ne sais plus le titre. Mais c'est une illustration, en tout cas, très, à mon avis, très convaincante hein, de ce basculement entre des orientations pédagogiques normées, rigides, du type méthode comportementaliste, méthode teach, hein, et puis une autre orientation qui vise les activités, hein, et non pas l'action normée, et les activités qui impliquent à ce moment-là d'avoir une attention particulière, hein, une certaine sensibilité et flexibilité à l'égard des difficultés de certains enfants, et en ne les séparant pas des autres. Sinon, on se trouve là à l'encontre de ce qu'on souhaite. Hein. C'est une inclusion à ce moment-là. Si on va dans le sens précédent hein, que je critique, on a une inclusion, comment dire, une inclusion avec des personnes qui ne sont pas véritablement intégrées, hein, si on utilise cet autre terme. Hein. Mais j'aime mieux utiliser une expression qu'utilisait pour autre chose le sociologue Pierre Bourdieu. Il disait, il y a le danger des exclus de l'intérieur. Hein? Il disait ça à propos d'adolescents, non pas par rapport à la problématique du handicap, mais d'adolescents qui se trouvent dans le second degré, dans des filières de rélégation, hein, qui n'aboutissent pas à des diplômes, qui n'aboutissent pas à des métiers. Il disait, là, voilà, on a affaire à des adolescents qui sont à l'intérieur du système, mais qui sont finalement voués à n'avoir rien à la sortie. Donc il disait, ce sont des exclus de l'intérieur. Hein? Or, je pense que un des risques qui peut exister aujourd'hui, hein, avec une inclusion à tout craint qui ne soit pas réfléchie, on peut aboutir à ça. Il y a ce risque de l'exclusion de l'intérieur. Si on utilise le mot inclusion comme une sorte de chapeau général, il faut inclure tout le monde, on ne réfléchit pas aux modalités hein, qui permettent aux enfants ou adolescents d'être là véritablement avec les autres et pour aussi des apprentissages. Hein. À la fois le lien social et les apprentissages, c'est le double aspect qui me paraît fondamental. Hein.
Juste un truc qui me fait rajouter. Pourquoi inclusion ? Moi, je trouve ça, je vous dis mon point de vue, c'est peut-être une appréciation d'un prof de maths.
Oui, 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 mais je comprends bien, pour un prof de maths, oui.
Pour moi, une inclusion.
Mais oui, je comprends
c'est
bien.
C'est tellement plus joli une intégration parce qu'il y a un retour mutuel. Ça, oui. C'est l'ergonome que je suis aussi qui va vous en parler. Quand vous avez quelque chose qui est inclus, ben vous avez un piercing, il est inclus dans votre corps, mais oui, c'est plus ou moins intégré, vous voyez.
Oui. Oui, oui.
Je ne sais pas comment, mais.
Oui, oui, non, mais je comprends bien votre ouais, simplement, bon. Il y a aussi le contexte international, le contexte international a joué un rôle essentiel par rapport à ça, hein. Parce que en français, vous avez raison, en français, inclusion, c'est inclusion du point de vue de procédures mathématiques, c'est inclusion par rapport à un bijoutier ou par rapport à un législateur qui a une clause, hein, qu'il inclut, hein, dans un texte juridique plus général. C'est vrai, donc, dans la tradition de la langue française, l'inclusion, c'est pour les choses. Hein. C'est pas pour les groupes, c'est pas pour les hommes et les femmes, bien entendu. Hein, parce qu'il faut inclure aussi les femmes, bien sûr. Enfin, je plaisante.
Mais... Peut-être qu'on peut retenir ce que tu disais, c'est-à-dire que le changement, il est sur est-ce que c'est à l'enfant de s'adapter au système,
oui, oui, c'est ça, oui.
Ou est-ce que c'est au système de s'adapter,
oui,
à
ça,
ses besoins éducatifs particuliers.
Et je pense que l'un ne va pas sans l'autre.
Oui, mais la focalisation,
oui,
par
oui,
où on regarde.
La focalisation.
Est-ce qu'on regarde d'un côté. Et auparavant, dans ce qu'a dit Eric, sur les années, oui, 60-70, oui, on était vraiment sur un regard phare, c'est à l'enfant de s'adapter. Et aujourd'hui, on dit, bah, attention, oui, mais il faut aussi que les systèmes, les établissements, les collectifs s'adaptent aux besoins de ces enfants. Hein. Et finalement, le terme inclusion qui nous vient plutôt du contexte mondial et européen,
mondial, oui,
il est à comprendre comme ça, mais on comprend votre...
Ah non, mais c'est un rejet fabuleux.
Alors, je propose...
Un rejet de la notion,
c'est
vous voulez dire,
non. Prothèse cognitive, mais alors...
Oui, mais le contexte international a joué un tel rôle qu'il y a un certain nombre d'orientations de l'Union européenne qui parlent maintenant d'inclusion sociale. Hein. Donc, c'est pas seulement l'aspect scolaire, hein, c'est l'aspect plus global. Et alors, c'est une notion qui s'est développée de telle sorte qu'il est difficile maintenant de ne pas l'utiliser, mais surtout de l'utiliser dans le sens, hein, qui vient d'être rappelé, dans le sens des capacités d'adaptation, des dispositifs, hein, et des pratiques, et pas seulement dans le sens qui a été souvent, le plus souvent, le sens utilisé, c'est l'adaptation ou l'adaptabilité de l'enfant et seulement de lui. Alors, ça pose aussi toute une série de questions qu'on aurait le temps de développer aussi, c'est sur l'évolution internationale, là encore, hein, des conceptions, hein, du handicap, hein, classification internationale de l'Organisation mondiale de la santé, bien qu'étant du côté de la santé, une prise en compte de l'environnement. Hein, on ne peut pas parler, hein, d'une personne en situation de handicap si on ne parle pas de l'environnement. Et si on dit situation de handicap, c'est justement pour montrer que c'est la situation qui joue effectivement un rôle tout à fait capital dans les capacités, hein, de l'environnement à accueillir l'accessibilité, hein, bien sûr.
Surtout dans le phénomène interactif.
Oui, absolument. Ah oui, non, mais je suis bien d'accord. Ah non, phénomène interactif, oui, bien entendu.
Oui,
oui, oui.
Alors que intégrer, il y a une démarche de réciprocité, de,
oui,
partage,
oui,
d'écoute. Voilà.
Oui, oui, bien sûr.
Alors, je peux vous donner mon point de vue de professeur de latin.
Ah oui.
Je pense que ce mot est conçu en opposition à exclusion.
Oui, oui, je n'ai pas évoqué.
Pas être désintégration, vous comprenez ce que je n'ai pas fait en français et en maths, on n'a pas tout à fait.
Oui, oui. Mais.
Moi, je pense que oui, oui. Alors, je crois que parce que je suis ergonome avec une spécialisation insertion des personnes handicapées.
Ah oui,
ça s'appelle comme ça. Mais je vous jure que bah, vous mettez ça dans le milieu de l'ergonomie, on inclut, oui, bah, on prend coup complet.
Projet d'insertion.
Voilà, intégration, réciprocité. Il y a, il y a aussi, je dirais, quand je prends l'exemple d'une personne qui a un handicap de surdité non complet, eh bien, c'est aussi à travailler avec l'enfant, à son port d'appareil, de lui montrer que,
oui,
hein, il y a un échange aussi, parce que vous avez aussi un rejet. On doit m'inclure tel que je suis avec ma surdité. Non, il y a aussi une réciprocité qui fait que, voilà.
Ah oui,
alors,
réciprocité, absolument d'accord. Ah oui, oui, oui. Voilà. Ah, sur la réciprocité, évidemment.
Oui. On va être obligé de
tout à fait d'accord.
Faire une petite pause quand,
ah,
même,
bon,
là, hein, d'un,
ah,
premier,
oui, oui,
temps.
Oui, oui, oui.